Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence cette journée d'études qui s'appelle l'Université de la Tourmente et qui est co-organisée par le département d'histoire que je représente et le centre Chevrier qui est un des laboratoires de sciences humaines et sociales de cette université, UMR 7306. Si nous avons souhaité ensemble nous réunir aujourd'hui dans cette journée d'études, c'est pour prendre la mesure de la situation qui affecte notre université. Notre université à Dijon, à Besançon et en France en réalité. Prendre la mesure de la crise qui n'est pas simplement économique, hein. Qui est social, qui est intellectuel, qui traverse l'université, voir ce qui se passe, les coupes budgétaires, suppression de postes, les non-remplacements, etc., etc., les filières qui sont menacées, supprimées, etc. Voilà. Et cette situation grave génère chez nous de l'inquiétude et de la colère. L'inquiétude parce qu'on ne sait pas où on va. Il y a une espèce d'illisibilité totale à tous les échelons d'ailleurs, sur l'université que l'on dessine, que l'on souhaite, que l'on est en train de construire. Et puis de la colère, parce qu'on n'accepte pas cette situation-là, on l'accepte pas en tant que... Enfin, pour nos étudiants, pour les collègues, pour nous. Voilà. Donc on a souhaité organiser cette journée d'études pour prendre la mesure de cette situation-là. Voir, alors c'est un réflexe d'historien, voir où l'on est, c'est aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé avant et peut-être ce qui a précipité tout cela. Mais nous tenons beaucoup à ce que l'on réfléchisse aussi à là où l'on va et là où l'on pourrait aller. C'est-à-dire dessiner des possibles et pas simplement voir ce qu'il en est aujourd'hui de mal. Voilà. Donc, cette journée d'études est organisée en deux temps. Ce matin, des collègues sont réunis pour présenter la situation à la fois à Dijon et Besançon. Bon, je les remercie d'abord chaleureusement d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Et puis cet après-midi, on essaiera, avec des collègues qui viennent de plus loin, et je les en remercie encore davantage, de voir d'où tout cela vient et ce que l'on pourrait imaginer d'alternative dans cette situation morose. Voilà. Donc, merci d'abord. Je passe la parole peut-être tout de suite à Jean-Emmanuel Rollin, justement, parce que pour voir ce qu'il en est au niveau des BIAT dans notre université.
Merci. Bonjour à tous et à tous. Alors, moi je suis content parce que pour une fois, c'est les GATS qui vont ouvrir les séances. D'habitude, on oublie souvent les séances dans toutes les institutions et dans d'autres organismes. Donc, c'est bien pour une fois, on va pouvoir en parler. Alors, moi je me présente, je suis Jean-Emmanuel Rollin, je suis membre du comité technique pour les personnels GATS et membre au conseil d'administration. J'accompagne beaucoup d'agents auprès de l'administration en tant que représentant du personnel. Alors, pour un certain nombre de personnes, peut-être que BIAT, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un acronyme, mais là, BIAT, c'est le diminutif pour bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien de service et de santé. Donc, c'est les personnes que vous voyez soit à la médecine de prévention, soit dans les bureaux en gestion, soit à la scolarité, mais aussi dans les laboratoires. C'est les personnels qui accompagnent les enseignants-chercheurs dans les équipes de recherche et sur la partie technique et administrative. Alors, les BIATS, il faut savoir qu'on est environ 1200 sur l'université. 1200, et pour tout de suite, je vais poser un chiffre, c'est qu'on est à environ 32% de personnel contractuel. Mais ça, comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on va un peu plus loin dans les chiffres, c'est qu'on s'aperçoit que vous prenez, par exemple, des services importants, tels que l'agence comptable, c'est quand même là le cœur de la guerre, hein, celle qui gère la finance, 75% des personnels sont des contractuels. Je ne connais aucune entreprises qui sont services financiers seraient gérées par les contractuels avec un turnover important. Voilà. Déjà. Donc, la problématique des GATS, c'est que les contractuels peuvent avoir besoin de ces activités ponctuelles. Hein. On a aussi des contractuels qui sont sur des contrats de recherche, parce que c'est des contrats de 2, 3 ans, 1 an. Donc, ça peut se comprendre. Et quand on a un nombre important de contractuels sur des fonctions pérennes et qui sont reconnues, ça pose toutes les questions. L'autre aspect, c'est que le ministère reconnaît à l'Université de Bourgogne un déficit de 120 postes de personnel technique et administratif sur les fonctions pérennes. C'est-à-dire que dans les logiciels de calcul des personnels qui auraient besoin pour faire tourner l'université, il manque 120 postes d'une année sur l'autre suivant un certain nombre. Donc, ça veut dire que même le ministère le reconnaît. Et pour compenser cela, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 60 000 euros à l'université par poste. Non, mais ce n'est pas négligeable. Parce que vous comprenez tout de suite le calcul, un personnel technique contractuel, c'est. Personnel.
Mets-toi là, viens là. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens là, viens.
Un personnel technique contractuel, par an, c'est 25 à 30 000 euros chargés. Voilà. Donc vous comprenez que l'université fait de l'argent en embauchant les contrats, en prenant des contractuels et non, puisque finalement en prenant les contractuels, ils gagnent encore 30 000 euros par poste. Non, mais, et le président ne s'en cache pas, hein, il a déjà mis un comité technique. La situation des GATT, elle s'est détériorée. Elle s'est détériorée, mais les anciens chercheurs la connaissent aussi, hein, avec un aspect très important qui est la loi LRU. Qui est dans la loi LRU, il y a la fongibilité asymétrique, et c'est la première fois où on peut payer du fonctionnement avec la masse salariale que le ministère donne, mais on ne peut pas faire l'inverse. Donc, avant, la masse salariale était donnée par le ministère, elle était sanctuarisée. Voilà. Donc, on ne pouvait pas toucher pour faire autre chose que payer les salaires. Maintenant, les économies qu'on peut faire, c'est en se prenant de la masse salariale pour payer l'électricité, pour payer les coûts, pour payer les enseignants. Donc, on l'a tout de suite vu, hein, nous, dans l'IGAT, dès que c'est passé, on a vu un certain nombre de postes qui sont passés en poste, de fonctions qui sont passées en poste contractuel. Voilà. En particulier, je rappelle sur la femme, mais il y a d'autres aspects. D'autres aspects, on a eu un gros mouvement au mois de janvier, juin, en termes de gestion des ressources humaines, parce que là c'est important, en l'espace de 2 jours, la décision a été prise de mettre environ 60 personnes dehors de contractuels. Mais pour dire 2 jours, c'est que la date limite pour envoyer la fin des contrats était le 30, la décision a été prise le 29. Le 29 au soir, les agents recevaient ça tous avec un minuit dans le cadet des courriers comme quoi ils étaient mis dehors, sans que personne ne soit informé, sans que. Voilà. Alors que jusqu'à maintenant, il y avait une gestion des ressources humaines qui était quand même accompagnée depuis très longtemps. Dans les contrats non renouvelés, on les mettait 3, 4 mois, 5 mois, les responsables de service étaient informés pour accompagner les agents vers là. Alors que là, ça s'est fait du jour au lendemain, même les responsables de service n'étaient pas informés. On a retrouvé des collègues qui étaient le matin tout seuls, qui arrivaient à 6h du matin, qui découvrent dans leur casier leur lettre que, comme quoi, dans 2 mois, ils sont mis à la porte sans aucune raison. Pour certains qui sont des contrats, je rappelle, certains ont 1 an, mais d'autres ont 5, 6, 7 ans. On a même à l'université des contractuels qui ont 15 ans. Moi, j'accompagne actuellement une personne qui a 15 ans de service à l'université. Donc, ce n'est pas des contrats, quand vous avez 15 ans à l'université sur un même poste, on peut considérer que le poste est quand même pérenne. Donc, quand vous recevez du jour au lendemain, peut-être, merci, au revoir. Non, il n'y a pas de merci. C'est dehors. C'est même pas le revoir, c'est le dehors. Ça fait très mal. Donc, l'université, on a eu cette partie, c'est passé au mois de juin, au mois de juin, au juillet, au conseil d'administration du 8 juillet, l'université, on a réussi à mobiliser plus de 250 personnes, hein, pour du conseil d'administration, ce que l'université n'avait jamais connu, surtout au mois de juillet, hein, au moment de là où beaucoup de personnes étaient en vacances. Et le seul réflexe qu'a eu le président, c'est de mettre les vigiles et de jamais sortir du conseil d'administration. Alors que les personnels étaient dehors dans la, sur les pelouses, à discuter tranquillement, et ça ne lui avait pas de. Il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas de chant, il n'y avait rien. Les gens étaient là simplement pour essayer de comprendre la situation. Déjà, d'essayer de comprendre la situation.
Oui.
Mais voilà, donc cette partie-là. Moi, je voulais revenir aussi donc, sur. Et donc, quand on enlève les contractuels, quand on enlève les personnels, même les non-renouvellements de poste, parce que même chez les titulaires, moi, j'ai fait un petit historique chez les non-titulaires. 2014, 26 postes sur 49 qui ne sont pas renouvelés. 2015, 17 postes, mais 2015 est une année un peu spéciale, hein, parce que je vous rappelle que 2015. Enfin, pour, je parle en 2015, c'est décembre 2015, hein, parce qu'on parle pour le budget 2016. Si vous voulez, l'année 2007, fin 2015, le président était en période de préparation de la réélection, et comme par hasard, tout le monde a un peu vu hein, des vannes s'ouvrir, hein, tout à coup on retrouvait de l'argent. Là, cette année, on a fait un effort, on a gelé que 17 postes, qu'on n'a pas renouvelé. Et cette année, 48 postes qui se libèrent, on en gèle 23. Mais pour donner une idée, c'est qu'on pourrait se dire qu'ils sont gelés. Ils vont peut-être réapparaître l'année suivante. Or, non. Non seulement ils ne réapparaissent pas l'année suivante. Et moi, la semaine dernière, j'ai interrogé le président de manière officielle. Donc là, il a été obligé de me donner un document officiel sur le résultat de la campagne de l'année précédente. Même des postes qui étaient ouverts au concours, accordé par le conseil d'administration, ouvert au concours, n'ont pas été ouverts au concours, ont été gelés. Donc en fait, même cela, on est par exemple sur les 18, 17 postes de l'année qui étaient officiellement gelés, nous en sommes déjà à 21, 22 considérés comme gelés, qui n'ont pas été ouverts au concours. Donc il y a déjà un delta de 3 à 4 postes supplémentaires par rapport à ce que le président annonce. Donc, là, c'est la situation, ça devient de plus en plus difficile hein, pour les services, comme moi j'en ai le personnel, qui ont des personnels avec un turnover plus important. Donc les agents, les personnels passent en moyenne tous les ans entre 2 à 3 mois, parce que c'est quand même, tout le monde n'arrive pas avec, avec le bagage technique, là, peut-être pas le bagage connaissance intellectuelle pour faire de la gestion financière, mais l'acquisition des. Des logiciels, l'acquisition des procédures, l'acquisition du fonctionnement de l'université, c'est environ les agents, beaucoup d'agents titulaires passent dans, tous les ans, 2 à 3 mois, à former les agents pour les voir au bout d'un an, 1 an et demi, quand ils deviennent complètement opérationnels, partir. Et on passe beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et les personnels en ont de plus en plus mal. L'ont redit au président, qui ne souhaitait plus faire la formation des agents contractuels, ce qui va mettre en péril. Ceci s'accompagne avec une restriction budgétaire. Important pour les services. Moi, j'en ai pris un parce que je m'a semblé que c'était assez significatif parce que tout le monde y accède. C'est le service des documentations, le SCD. Pour vous donner une idée, j'ai repris les chiffres du budget, hein, parce que, à part qu'on ne dise pas que j'annonce des chiffres en l'air, c'est les chiffres qui sont connus. Il suffit d'aller dans les verbatimes des conseils d'administration pour voter les budgets et on retrouve cette ligne budgétaire. D'accord, c'est compliqué d'aller écrire un budget, hein, 165 pages de ligne budgétaire, il faut savoir lesquelles on cherche, mais ça demande un peu d'exercice. En 2014, le SCD, c'était, et je ne parle qu'en fonctionnement, donc c'est, j'enlève la partie masse salariale, hein, c'est celui du fonctionnement pour faire tourner le SCD. C'était 2 063 658 euros. En 2015, nous sommes passés. Donc pour le budget voté pour le budget 2015 à 1 502 000. Pour le budget 2016, donc là où voté juste avant les élections, qui fait donner un signal, on est passé à 1 582. Et pour 2017, voilà, 2017, c'est revu au budget qu'on votera, enfin qui doit être présenté au conseil d'administration prochain, c'est 1 271. C'est-à-dire que rien que d'une année à une autre, on est passé à moins 300 000 sur le service du SCD. Et c'est pas le seul service, hein. Tous les services sont à peu près impactés de l'université, les services généraux sont impactés entre 20 et 30%, mais avec des baisses cumulées des années précédentes. Donc nous, on ne sait plus du tout comment on fera tourner les services l'année prochaine, à la rentrée, s'il vous plaît. De plus, On a connu au niveau du DIAD ces organisations qui ont plus eu un impact négatif qu'un impact organisationnel. Ça fait partie des questions qui doivent être que l'on veut, qu'on réforme le mode d'organisation de notre université en termes administratifs. Tout le monde est d'accord à tous les niveaux. Hein, les agents le pensent aussi. On peut travailler différemment avec des nouveaux outils. Mais à partir du moment où on est acteur aussi de ce mouvement. Je rappelle que quand même l'université a connu 4 directeurs généraux, 5 directeurs généraux, excusez-moi, j'en ai oublié, un tel de turnover, on les compte plus, en 4 ans de mandature, le directeur général des services, c'est celui qui fait tourner l'administration, c'est celui qui met en route tout le monde. Et quand vous avez un directeur général qui reste 6 mois, 18, 12, 13 mois, 14 mois, vous n'avez pas le temps de prendre la température et de mettre en route une. Voilà. Et chacun veut un changement différent, veut un fonctionnement différent. Donc une fois qu'on a changé, une fois qu'on a adapté, on repasse sur un autre fonctionnement et tout le monde est complètement perdu. Ce qui entraîne une augmentation des arrêts maladie chez les personnes de BIAT. Cette année, c'est flagrant. Et surtout une augmentation significative des arrêts maladie pour burn-out, pour harcèlement. Parce que, évidemment, le harcèlement, quand la pression elle vient d'en haut, quand le pied vient d'en haut, moi, c'est la première fois où, depuis maintenant plus de 18 ans que je suis représentant du personnel, je crois que les 3 dernières années, je crois que les grands chefs de pôle, les grands chefs de l'administration ont redécouvert mon mail ou mon numéro de téléphone parce que j'ai sur ma boîte mail. Et le stade même des grands chefs de pôle qui sont tout près de la gouvernance et qui a un certain nombre de choses qui sont liées au burn-out. Quand des grands chefs de service qui sont là depuis 25 ans, qui ont toujours été auprès de la présidence et qui n'ont jamais eu de problème et qui tout à coup pètent les plombs, pour poser la question du fonctionnement même là-haut. Et quand ça monte de là-haut, automatiquement ça redescend et c'est problématique. L'université, c'est la première fois. Il y a eu un suicide sur le lieu de travail que la présidence a caché sous une forme d'accident, malheureux incident, pour rappeler son propos au conseil d'administration. Mais c'est la première fois. Alors, j'étais informé, je peux vous dire que j'ai compté la petite dizaine de personnes qu'on suit de manière très régulière, puisqu'on échange quand même avec la psychologue du travail. On sait qu'on a une petite dizaine de personnes chez IBIAS. Dont on sait que le passage à l'acte n'est pas très loin. Voilà, c'est la situation, elle est très sombre pour les personnes du BIAT. On passe notre temps, moi je prends beaucoup de temps, en moyenne 2 à 3 fois par mois, par semaine, si ce n'était pas moi, ça irait encore, mais 2 à 3 fois par semaine à accompagner les agents, que ce soit auprès de l'administration, pour essayer de trouver des solutions, que ce soit auprès des services de santé, voilà. Et un petit indicateur, c'est qu'il y a une augmentation de 40% des personnels qui ont déposé des demandes de dossiers auprès du service d'action sociale sur les services d'aide secours financier, parce que les personnels n'en peuvent plus. Voilà, et un autre indicateur quand même, parce que c'est le salaire médian, parce que quand on parle de salaire au sein de la fonction publique, on parle toujours de moyenne. Alors je ne vais pas être... rabat-joie, mais il faut savoir que, par exemple, un personnel technique, hein, quand il est recruté à 10.321. C'est le niveau du SMIC. C'est-à-dire que quand vous rentrez à 10.321, il faut savoir que c'est le niveau du SMIC et que vous restez minimum 4 ans dans ce... minimum 4 ans déjà dans ce salaire-là, sans augmentation. Donc vous avez vu, hein, il n'y a eu que cette année où il y a une revalorisation de 0,6 et 0,6 l'année prochaine, mais ça fait 5 ans, 6 ans que le pouvoir d'achat, que le point d'indice est bloqué. Donc l'inflation va continuer à courir, et quand vous avez l'inflation qui court et que les indices ne bougent pas, automatiquement, il y a une compensation. Sur lequel j'attire l'attention, c'est qu'on a 75% des plus bas salaires de l'université sont les personnels féminins, dont un certain nombre important, on n'a pas encore la proportion de derniers chiffres, hein, mais qui sont des femmes seules avec enfants, donc vous imaginez la précarisation. Nous avons un certain nombre de personnels dont l'adresse est l'adresse administrative, donc pour nous ça veut dire que ces personnels-là, nous ne savons pas où ils habitent, enfin, lieu où on sait où ils habitent, c'est-à-dire sous les ponts. Vous avez croisé les personnes qui peuvent paraître, qui sont propres sur le coup et qui habitent sous les ponts. C'est la réalité. Donc moi, j'en connais moins d'eux. On fait suivre actuellement par les services sociaux, parce qu'il faut que je trouve les solutions. Mais donc l'état d'esprit des personnels sont de plus en plus, dégradés. Et surtout, avec tous ces changements, il n'y a pas de vision de où on va. Parce que certains se disent, quand on en discute entre nous, entre personnels, se dire, ok, l'université n'a plus, plus les moyens financiers, on va essayer de revoir, mais quelle est la, comment les personnels peuvent s'inscrire dans cette université. La seule chose que voient les personnels depuis maintenant 6-7 ans, c'est qu'ils ne sont que la variable d'ajustement du budget, c'est-à-dire on coupe dedans. Et puis c'est vrai que les propos du président, ou même quand vice-président en finance, hein, sont de dire que les personnels coûtent cher. Le vice-président nous l'a dit, en CA, il nous a dit que les personnels coûtent cher. Donc voilà, vous comprenez bien que les personnels ont du mal à se mettre dans cette perspective quand on leur dit que finalement, coûte cher, mais à quoi on sert Voilà, c'est un peu près les grandes lignes que j'ai voulu tracer sur les BIAT. Mais la situation des BIAT, elle se dégrade moralement, énormément. Ça, vous avez vu beaucoup de personnels qui viennent. Vous voyez beaucoup de personnels, pas en particulier pour les étudiants, parce que les étudiants ne s'en rendent pas forcément compte, mais les personnels tiennent encore parce qu'ils me disent, nous on vient parce qu'il y a des étudiants qui viennent dans nos bureaux. C'est la seule chose qui les font tenir. Mais ceux qui étaient prêts à faire des heures supplémentaires, pas payé, parce que nous, on n'est pas payé en heures supplémentaires, je rappelle. C'est, on a certains qui vont partir en retraite qui vont partir en vacances, en retraite, mais qui vont partir 4 mois plus tôt, parce que l'université, ils ont 4 mois d'heures à récupérer que l'université. Mais si on récupérait nos heures qu'on fait, le service ne pourrait pas tourner. Ce que je veux dire, c'est que les personnels viennent encore parce qu'ils ont encore des étudiants, il y a des étudiants ou il y a des enseignements à assurer, c'est la seule chose qui les fait tenir, mais ils ne vont plus au-delà, ils ne s'investissent plus pour l'université, ils n'ont plus envie de s'investir parce qu'ils n'ont plus confiance en l'université. Et ça, c'est quand même malheureux parce que c'est aussi les moteurs, quand les personnels sont moteurs de l'université, de leur établissement, on peut impulser une nouvelle politique, on peut impulser aussi les orientations, et ça, voilà. Et j'ai un dernier point, parce que sur le SCD, je suis passé, j'avais ça en tête et je l'ai oublié, je le signale pour les personnels, pour les étudiants, dès 2016, un certain nombre, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes concernés, mais il faut savoir qu'il va y avoir une très grosse coupe dans tous les chez les moniteurs au SCD, puisque la baisse du... Voilà, moi j'ai des collègues qui sont en train de préparer les courriers aux étudiants pour leur dire que les contrats qui étaient prévus en termes d'horaire ne sera pas honoré et qu'on mettra, parce qu'ils ne peuvent pas assurer financièrement. Vous avez vu, avec 300 000 euros en moins, il faut trouver de l'argent. Et... Voilà. Voilà ce que je pouvais tracer comme perspective pour les personnes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Pour se retrouver bien en face et devant la caméra aussi, me semble-t-il. Donc moi, je suis Vincent Bourdeau, je suis maître de conférence en philosophie à l'Université de Besançon et je suis adhérent aussi à la Perscrip CGT. Donc je viens aujourd'hui pour avoir cette discussion intersyndicale et puis pour essayer de voir un petit peu où on en est dans les deux universités, Dijon, Besançon. Donc j'aimerais d'abord faire juste une toute petite présentation, puis je vais faire une présentation un peu aussi de comparaison avec des universités comparables à celles de Besançon ailleurs dans le monde. Vous verrez, ça donne des indications qui rejoignent un peu les remarques qui viennent d'être faites. Alors l'université de Franche-Comté, c'est 11 composantes, si on inclut l'unité de Belfort-Montbéliard, l'unité de Besançon-Vesoul, donc 23 000 étudiants, donc c'est une université de petite taille, hein, c'est relevé dans les études du ministère, on fait partie avec Limoges et la Corse des petites académies universitaires, mais c'est quand même 1135 enseignants permanents, dont 700 enseignants-chercheurs, 300 PRAV, 115 hospitaux universitaires, et puis 500 enseignants non permanents, ce qui comprend des ATER, des doctorants, etc. C'est-à-dire que nous aussi, chez les enseignants, enseignants-chercheurs, il y a un volet, un volant de personnel contractuel qui est très important. Donc, en tout, pour l'Université de Besançon, on compte donc 1628 enseignants. Et l'USC, c'est aussi personnel administratif et technique. Alors, content de voir qu'au fond, on semble bien doté. On a 800 titulaires fonctionnaires, 50 en CDI, 500 contractuels, donc on a plutôt 1350 personnels BIAS. Mais il faut voir que dans le dernier audit HCERS de l'Université de Franche-Comté, il a été noté par le rapport HCERS que l'université avait trop de personnel BIAS. Donc ça sera sans doute la prochaine variable d'ajustement. Alors, si on compare avec une université tout à fait équivalente par la taille, l'université de Harvard, où il y a 20 000 étudiants, on peut se rendre compte qu'à Harvard, il y a 2500 enseignants, 14 000 personnels en tout. Évidemment, ça fait beaucoup plus que l'université de Franche-Comté. Alors évidemment, parmi ces 14 000 personnels, on a beaucoup de chercheurs purs qui n'enseignent pas, mais il y a aussi un certain nombre de personnels, y compris dans les bibliothèques, etc., qui sont tout à fait conséquents. Bon, évidemment, il faudrait comparer aussi les budgets. Le budget de l'Université de Harvard, c'est 4 milliards de dollars par an. Le budget de l'Université de Franche-Comté, c'est 210 millions d'euros, dont 160 millions qui sont consacrés à la masse salariale, 40 millions pour le fonctionnement et 20 millions pour les investissements. Donc on voit qu'avec le passage au RCE, que les différentes lois LRU ont entériné, on a donné naissance à des universités un peu Canada Dry, puisqu'on a la couleur, le goût de ces universités qui participent à la compétition de Shanghai. Mais évidemment, on ne part pas tout à fait armé de la même manière. Donc j'ai choisi Harvard parce que c'est à peu près comparable en taille avec l'université de Franche-Comté, mais aussi parce qu'elle est première au classement de Shanghai et que c'est ça qu'on vise avec les compétences élargies et les responsabilités données aux universités. Donc vous voyez que c'est aussi un problème qui va se poser, parce que ce n'est pas une question de taille, simplement le fait d'être donné au classement de Shanghai, c'est une question aussi de ressources qu'on met dans les universités. Alors pour saisir la situation des universités, y compris celle de Franche-Comté, il faudrait aussi comparer au niveau national l'université avec l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur, les STS, donc les sections des techniciens supérieurs, c'est-à-dire les BTS qui sont dans les lycées, les classes préparatoires aux grandes écoles, un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, etc., financées par l'État. L'étude Repères et références statistiques 2016, qui est parue en août dernier, qui est disponible sur le site du ministère. Alors, tous ces documents sont parfois un peu arides, c'est un peu comme nos bilans sociaux dans les universités, les comptes de nos universités, mais ça vaut la peine d'aller regarder. Donc, cette étude nous apprend et nous donne un certain nombre de précisions concernant le coût des étudiants aujourd'hui en France et la part qu'on accorde dans nos budgets à l'enseignement supérieur. Donc, la part de la dépense intérieure d'éducation dans le supérieur a augmenté entre les années 80 et aujourd'hui, puisqu'on est passé de 15% à 20%, mais dans le même temps, le nombre d'étudiants a doublé. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on prend en compte des chiffres, il faut toujours les comparer avec la situation initiale. Alors dans le supérieur, je cite un tout petit passage, l'écart de coût est très important, est observé entre les formations universitaires, donc c'est 10 800 euros, par étudiant à l'université, et encore là c'est une moyenne, il faudrait comparer entre les différentes formations, il y aurait peut-être des écarts à trouver, d'une part, et les classes de type CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, 14 980 euros par étudiant, ou STS, donc BTS, 13 660 euros d'autre part. Et donc le ministère souligne que cette différence tient en grande partie au taux d'encadrement. Donc oui, bien sûr, le taux d'encadrement n'est pas le même à l'université et il semblerait que pourtant jouer sur ce taux d'encadrement soit encore une variable, outre les personnels, pour pouvoir, qui évidemment concerne les personnels, pour pouvoir réduire les coûts. Donc voilà une situation très rapide pour situer Besançon dans le paysage mondial, national, etc. Mais maintenant, j'aimerais parler un peu du mouvement qui a été le nôtre à Besançon. Il est évident que les difficultés budgétaires que l'on rencontre sont communes à toutes les universités, et nous rencontrons aussi à Besançon cette contrainte budgétaire, mais avec ce paradoxe que le président de notre université, Jacques Bailly, affirmait encore la semaine dernière dans l'Est républicain que les finances de l'université de Franche-Comté sont saines. Donc, ce qui montre que même quand les finances sont saines, en fait, on ne peut pas faire fonctionner de façon ordinaire l'université, et donc simplement assurer le fonctionnement des formations et les missions qui sont les nôtres. Donc on a appris très récemment, en fait, et même très brutalement, des décisions, ou en tout cas des décisions qui étaient en cours, hein, je reviendrai là-dessus, puisqu'on a réussi déjà par le mouvement à empêcher un certain nombre de choses, mais alors qu'on regardait avec beaucoup de sympathie le mouvement dijonnais et qu'on se croyait un peu préservé du fait de nos finances très saines, eh bien on s'est rendu compte qu'on était dans la même situation. Donc les premières mesures qui nous ont beaucoup choqués, c'est la fermeture de formation. Et là, pour le coup, on retrouve le même type de management qu'on avertit les personnels concernés, mais du jour au lendemain, hein, sans qu'il y ait forcément de concertation et de discussion. Donc les formations qui étaient visées jusqu'à encore très peu, c'était le russe, l'italien, le traitement automatique des langues et la musicologie. Mais outre ces fermetures de formation, il y avait aussi des diminutions dans le volume d'heures dévolues aux formations. Donc les taux d'encadrement, si on comparait comme je le disais tout à l'heure, bah, ils tendraient encore à diminuer. En particulier, avec ce paradoxe, on sait que les premières années sont des années un peu cruciales, où on passait à 10 semaines au lieu de 12 pendant la première année. On passait à 11 semaines au lieu de 12 en L2, et en L3, on diminuait des enseignements disciplinaires en remplaçant cela par des lieux de travaux encadrés de recherche qui permettaient du coup de masquer en partie la diminution de l'offre de cours. Alors ces fermetures de formation et ces diminutions d'heures ou de semaines de cours, en réalité, anticipe, c'est ça le problème à Besançon, mais qu'on rencontre dans d'autres universités, une carte de formation qui doit entrer en vigueur en 2017. Parce qu'on est dans une phase où là, on doit mettre en place une nouvelle offre de formation. Alors, le temps presse pour deux raisons. C'est que les lycéens vont saisir leurs vœux dans APB en février, donc il faut que la carte de formation soit disponible très rapidement. Et donc, les universités, deuxième raison, doivent avoir validé cette carte de formation au 1er janvier 2017, d'où le CA qui tiendra à Besançon le 16 décembre, qui doit voter sur ces cartes de formation. Donc il y a une précipitation en fin d'année, alors qu'on est sur ces cartes de formation depuis janvier 2016 au moins, qu'il y a eu de nombreux allers-retours entre la présidence et les composantes, entre les départements et leurs composantes, et entre la présidence et le ministère. Et là, le problème, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'injonctions contradictoires, puisque le ministère nous demande d'aligner nos formations sur des normes européennes, avec un certain nombre d'heures à assurer en licence ou en master, et lorsqu'on met ces heures, bah oui, on arrive à une carte de formation telle qu'on la propose pour 2017, qui représente 68 000 heures. Or, le président de l'université pensait faire des économies avec cette nouvelle carte de formation. Donc, lui-même avait pensé une enveloppe d'heures qui correspondrait, je parle pour l'UFRS LHS, lettres et sciences humaines, il pensait une enveloppe à 54 000 heures, alors que notre formation actuelle, elle est à 58 000. Vous voyez le problème. Lui pensait faire des économies d'heures, donc il avait prévu une enveloppe 54 000 heures. Le ministère, lui, envoie des injonctions où il faut qu'on ait des niveaux de formation qui soient européens. On remplit le contrat, on arrive à 68 000, et donc là, il y a un delta qu'il va falloir évidemment combler. Donc comment est-ce qu'on on peut se sortir de cette situation? Bien, notre UFR, notre doyen, sous un peu la pression de la présidence de l'université, avait fait des simulations, d'où ce passage en 10, 11, 12, hein, 10 semaines pour par semestre pour les L1, 11 pour les L2 et 12, mais avec cette méthodologie. On supprimait par ailleurs une UE de méthodologie du travail universitaire en L1, qui est en fait une UE d'accompagnement pour des étudiants qui n'ont pas encore les méthodes. Donc on concentrait en fait une certaine forme d'économie autour de la L1, qui est cette année où tout le monde dit qu'elle est particulièrement sensible dans nos universités. Et après, évidemment, on va reprocher à l'université de ne pas réussir à former les premières années et les faire passer en deuxième année. Donc à l'heure où on se réunit, certaines composantes dans notre université ne savent toujours pas quelle va être leur enveloppe de dotation horaire. maîtrise locale de l'UFR de droit, économie et gestion. Or, comme je vous l'ai indiqué, les cartes de formation, y compris pour ces composantes, sont faites et il va y avoir des décisions qui vont être prises le 16 décembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux semaines? On a suivi la voie du modèle dijonnais, on a fait des assemblées générales qui ont réuni beaucoup de monde. Une le 22 novembre qui se tenait le jour où le conseil d'administration se réunissait une première fois, là, cet automne, pour la campagne de poste. Alors, on avait un nombre de gels de poste incroyable, puisqu'au début, on en plaisantait ce matin avec François, donc c'était un peu, il y avait un petit côté agent immobilier, c'est-à-dire le président de l'université arrivait en nous disant il y aura zéro poste cette année en UFR et FLHF. Donc c'était une manière évidemment de lancer la négociation en disant qu'au fond, si on nous en proposait deux ou trois sur les 16 qu'on demandait, on serait déjà content puisqu'on partait de zéro. Au final, ça a été voté, il y aura quand même 6 postes qui seront pourvus sur les 16, et donc ça fait quand même 10 qui sont gelés, avec des risques, comme l'évoquait notre collègue tout à l'heure, de savoir ce que deviendront au final ces postes gelés. Au cours de ce conseil d'administration, les représentants des formations menacées ont été reçus. Il y a eu une délégation qui a pu se présenter au CA, et deux jours plus tard, le président a reçu au cours de la réunion les représentants des formations. Et donc là, il y a eu des changements sur un revirement partiel sur ces formations, puisque le président de l'université a dit qu'il était évidemment pas question de fermer ces formations et qu'il était évidemment hors de question de passer à 10 semaines en première année, 11 semaines en deuxième année, et que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Alors, à partir de là, on disait, bah, évidemment, on va récupérer les heures qui permettent de faire en sorte qu'on puisse assurer 12 semaines, etc. Non, là, pour le moment, on a toujours le même nombre d'heures, donc il faut qu'on retourne dans les différentes composantes pour essayer de discuter un peu de tout cela. S'agissant du maintien des formations, je tiens à souligner que ça n'est pas non plus un maintien sans condition. Dans le cas de l'italien, c'est plutôt un maintien avec probation, entre guillemets, puisque l'italien est invité à se rapprocher de Dijon au cours de 2017-2018 et à trouver une solution qui réunirait les deux formations. S'agissant du russe, on supprime le russe comme langue vivante proposée aux étudiants, mais on le maintient simplement à LEA, et puis on supprime la filière langue, littérature et civilisation étrangère. Donc voilà, il y a quand même des conditions. Dans le cas du TAL, le traitement automatique des langues, là encore, c'est aussi une manière de maintenir, mais tout en modifiant les choses, puisque le traitement automatique des langues, il y avait un master langue et TAL qui est maintenant invité à intégrer un parcours littérature. Il semblerait que seule la musicologie soit véritablement préservée sans trop de conditions. Donc depuis le 24 novembre, on a encore tenu deux AG, une qui s'est tenue le 24 même et l'autre mardi dernier, 29 novembre. Donc nous, on continue à demander à ce que nos formations soient préservées, à ce que les enveloppes horaires soient maintenues à un niveau qui permette de les mettre en œuvre dès 2017. Et lors de la dernière AG du 29 novembre, il a été décidé trois appels à la grève. Pour le 6 décembre, donc demain, le 8 pour pouvoir mener les actions, et puis une le 16 décembre pour pouvoir justement à nouveau manifester devant la maison de l'université, enfin la présidence, puisque se tiendra ce conseil d'administration si décisif. Alors il y a un certain nombre de scénarios de sortie de crise qui sont présents, bon, à chaque fois avec des difficultés, je peux peut-être les évoquer sans prendre trop de temps, mais disons que si on regarde du côté de la présidence, ce qui est proposé, c'est que globalement toutes les formations dites à petit effectif se rapprochent de Dijon et qu'au fond ce soit des diplômes qui soient pris en charge par sous couvert de la commune. Avec la question des personnels qui se posent, mais d'après les réponses qu'on a eues, chaque personnel resterait dans ses composantes, on ne voit pas très bien exactement comment ça se dessine, tout ça est très flou, mais ça fait partie des projets.
On va parler des écoles doctorales.
Oui, ça commence avec les écoles doctorales, donc effectivement, on pourrait en parler. Deuxième proposition, en gros, et là on voit à quel point on est dans une logique très comptable, c'est de faire un arbitrage CMTD qui va dépendre en gros des effectifs et non pas du contenu. Donc quand on a des formations à gros effectifs, alors là on bascule en CM massivement et puis on réduit le TD. Quand on est dans des formations à petits effectifs, ben là c'est l'inverse, même dans des cours de master, si les cours de master sont à moins de 10 par niveau, alors on basculera à 80% de TD et 20% de CM. Donc il n'y a aucune logique pédagogique et aucune logique de préparation des cours, mais en tout cas, il y a une logique comptable qui fait qu'effectivement, quand on a une masse d'étudiants, c'est plus simple de faire des grands cours d'amphi, de faire moins de TD, et quand on a peu d'étudiants, bah de se dire que tout ça, c'est du TD, puisque les cours ne sont pas nombreux, et même si le cours, en réalité, est un cours de CM. Alors, du côté de notre UFR, il y a une réunion de directeurs de formation et de responsables de notre UFR. Bon, là aussi, on a un certain nombre de scénarios. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en parler dans la discussion. Mais globalement, bon, il y a le scénario qui fait qu'on continue à lutter pour demander nos 68 000 heures pour la formation l'année prochaine. Vous voyez que ça pose un vrai souci par rapport à et l'enveloppe existante. C'est vrai que même si on part de ce que sont nos dotations horaires aujourd'hui, on est à 58 000 heures, donc on a juste 10 000 heures, mais on a juste rempli aussi des demandes qui nous ont été faites. Et par ailleurs, il y a tout un tas d'aménagements qui fait qu'en gros, on reste à 12 semaines, mais dans ces 12 semaines, on intègre des semaines qui ne sont plus vraiment des semaines de cours. C'est-à-dire la semaine d'accueil qu'on faisait déjà passerait comme une semaine normale. Et on intégrerait une semaine aussi de suivi des étudiants. Et tout ça, ben, quand on demande mais comment c'est pris en compte dans les services des enseignants, on nous dit que ça pourrait passer dans le référentiel. Donc le référentiel, c'est une dotation d'heures qui est allouée aux enseignants, qui normalement sont alloués pour de l'encadrement, de recherche, des choses comme ça, qui sont souvent à un niveau assez faible, et qui sont plafonnés de toute façon. C'est-à-dire que le référentiel à Besançon, ça varie d'une fac à l'autre, mais nous, c'est 42 heures. Donc là, quand on voit comment un certain nombre d'heures pourraient passer du côté du référentiel plutôt que des cours, sur le papier, on restera à 12 semaines, mais dans les faits, ce serait des semaines un peu différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors, juste pour conclure, je vais quand même attirer à nouveau l'attention sur le fait que tout ça, c'est une politique qui est largement liée à ce pilotage où on essaie de trouver des formes de ressources là où on peut, et effectivement, la masse salariale devient une variable d'ajustement. Alors, dans le rapport HCERS que je citais tout à l'heure, auquel a répondu notre président le 16 octobre. On voit bien comment là, il y a aussi une logique entre des agences qui viennent noter nos établissements et la manière dont les politiques se construisent à partir de ces notations par des agences. Ce que signalait le rapport HCERS, c'était quatre faiblesses dans l'université de Besançon. Première faiblesse, l'ampleur de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'il y avait trop de formations proposées à l'université de Franche-Comté. Un problème d'attractivité européenne internationale encore insuffisante, l'organisation de services encore trop dispersée. Et donc là, il y a toute une réorganisation administrative. On nous a expliqué qu'en fait, on allait adapter l'administration au RCE, aux responsabilités et compétences élargies. Et ça aussi, c'est énormément de transformations pour les personnels administratifs parce qu'on réorganise constamment les services. Et le quatrième point, c'était l'investissement nécessaire dans un patrimoine immobilier vieillissant. Alors évidemment, quand on regarde ces quatre remarques, on se dit, bon, bah, après tout, un président d'université, il a une marge de lecture possible, on peut prendre ça avec un peu de recul et se dire, bon, on n'est pas obligé de tenir compte exactement de tout, mais nous, on a un président qui est très soucieux de bien tenir compte des remarques de l'HERS. Et par exemple, là, il y a une rallonge de 900 000 euros pour financer les formations et l'accompagnement des étudiants. Ben Jacques Bailly propose qu'on utilise pour refaire des toitures, puisque l'HERS nous dit qu'il faut utiliser l'argent pour l'investissement dans le patrimoine immobilier. Et s'agissant des formations, je cite la réponse, et ce sera mon dernier mot, de Jacques Bailly à l'HERS. Il dit « La mise en œuvre de la prochaine offre de formation est au centre de nos préoccupations. Nous y travaillons à la lumière du ClickView, outil que nous avons développé et qui permet l'étude dynamique des coûts complets de la carte de formation. Le dimensionnement de l'offre de formation aux ressources humaines de l'UFC permettra un enseignement de qualité, l'investissement sur de vrais outils pédagogiques innovants et aidera à préserver l'équilibre financier de l'université. » Donc on voit bien que la formation est devenue à l'université une variable d'ajustement budgétaire et je veux bien croire que ce soit un lapsus de la part de notre président de l'université, mais il est quand même très révélateur. Voilà, je vous remercie.
Bah, si tu veux, ouais. Ah bah, je...
Est-ce qu'il y a besoin que je parle dans le micro pour votre enregistrement, madame, ou est-ce que je peux parler comme ça, parce que c'est des fois plus facile. Ah bah si vous voulez. Donc, sinon, ça passe pas. Alors, ça devrait redémarrer. Alors, j'ai pas la. D'abord, je voudrais remercier Xavier, enfin, le département et le centre Chevrier. C'était vraiment, à mon avis, important, effectivement, qu'on puisse avoir un regard croisé, Université de Franche-Comté, Université de Bourgogne, et puis qu'on étende par la suite à l'ensemble des préoccupations qu'on retrouve au niveau national ou international, hein, Vincent en a parlé. Donc, moi, j'ai une casquette d'élu syndical. J'ai été secrétaire général du SNESUP, donc une vue un peu globale, nationale de la situation des universités est forcément quelque chose qui me motive beaucoup. Puis j'ai œuvré, si j'ose dire, au sein du conseil d'administration de l'université, et maintenant je me retrouve au conseil d'administration de la commune. Donc on va en parler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de voir comment des outils divers et variés, institutionnels et financiers, sont mis en œuvre de façon constante, tenace, par les différents pouvoirs politiques qui se succèdent, pour transformer l'université. Le titre que les camarades ont choisi, hein, « Dans la tourmente, crise, ravage et modernisation », on y est effectivement en plein dedans. Alors moi, j'ai quelque chose devant mes yeux, mais vous, vous n'avez rien du tout. C'est quand même pas mal, c'est pas banal. Alors, en principe, ça devrait redémarrer. L'objectif du PowerPoint, c'était surtout de vous montrer une courbe. Bon, alors j'espère que ça va démarrer quand même.
Sans doute que tu redémarres.
Bah, je redémarre, là. Ouais. Bah, j'ai redémarré.
Non, mais redémarrer ton ordinateur.
C'est quoi? Parce que tout à l'heure, il est bien reparti. Hein.
Ah bon.
C'est lui qui prend un peu de temps avant de. Voilà. Ah ouais, il faut le temps qu'il se répète. Bon, alors, donc oui, je voudrais repartir donc dans crise, tourmente, etc., sur une phrase de Jean-Emmanuel qui a dit tout à l'heure, pour les personnels, leur mal-être, hein, c'est ça redescend de là-haut. Hein, ça redescend. Et effectivement, on avait dit dans un certain nombre d'AG, lorsqu'on avait commencé à contester très fortement la destruction des formations à l'Université de Bourgogne telles qu'elles étaient présentées au début de l'année, à la rentrée universitaire, hein, j'avais pris une image en disant que la politique gouvernementale, elle avait deux formes. Un, ce qu'on appelle la patate chaude, deux, le cliquet. La patate chaude, c'est vraiment, ça redescend de là-haut. Le ministère, on va y revenir peut-être, grâce à... ces lois, hein, la loi LRU d'une part et la loi LRU 2 de Fioraso par la suite, se défausse sur les établissements de son désinvestissement. Donc il coupe les robinets et il dit c'est pas moi, l'université sont autonomes grâce à la loi LRU. Elles sont autonomes. Donc les problèmes que vous rencontrez, c'est vos choix budgétaires. Fioraso avait même dit moi je paierai. Au président d'université une formation à l'ENA pour qu'ils sachent un peu gérer leur budget. Hein. Alors, tous les présidents sont donc des cons et ils ne savent pas gérer un budget. La réalité est bien évidemment autre, c'est qu'on voit les budgets diminuer en fonction du nombre d'étudiants qui, eux, augmentent. Les présidents d'université disent « Oh, ben moi, je noue un dialogue avec les composantes. » C'est les dialogues de moyens, objectifs, moyens, etc. Et donc, c'est les composants qui sont responsables de la façon dont ça se passe. Donc, en gros, le président dit, c'est pas moi, c'est la composante. Et la composante, le directeur du FR, bah, lui, il se retrouve bien coincé. À un moment donné, il va voir les directeurs de département qui, finalement, disent, bah, c'est tel enseignant qui va s'y coller, c'est qui saute. Voilà. Patate chaude. Tous coupables, personne n'est responsable là-dedans. Cliquez. Tous les ans, on vous en met un petit coup. Et jamais on peut revenir en arrière. La référence sur les formations, par exemple, la référence, c'est l'année N. On se débrouille pour fermer un peu les robinets et supprimer des heures tous les ans. Et puis l'année N plus 1, on dit, eh ben, la référence, c'est l'année N. c'est-à-dire une année qui a déjà été amputée par rapport à l'année N-1, etc. Donc politique du cliquet, et donc ça explique une situation de mal-être que Jean-Emmanuel montrait, parce que tout le monde, les personnels et puis les collègues enseignants qui occupent quelques responsabilités au sein, par exemple, des composantes, se retrouvent dans une situation complètement schizophrénique où ils sont, directeur du FR, par exemple, chargé de supprimer des formations. Jamais un collègue directeur du FR n'est là pour faire cela. Donc, ça explique effectivement les visites de plus en plus permanentes aux psychologues. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a un psychologue à l'université qui est là pour ramasser, j'allais dire, les collègues. Ça n'existait pas avant, ça existe depuis les RCE, comme par hasard. Bon, alors les RCE, on va en reparler. Les étudiants, c'est, tout le monde le sait, c'est une grande priorité. La main sur le cœur, tous les candidats au présidentiel vont vous dire que les étudiants, c'est leur priorité. Il faut investir dans la jeunesse, patati patata. Mais quand on regarde simplement, très rapidement, dans les 10 dernières années, les investissements qui sont faits, et il vous en manque un petit bout, donc je vais vous traduire. En base 100, donc en 2006, on regarde en noir, donc en pointillé noir, c'est la dépense intérieure dont parlait Vincent pour l'enseignement supérieur. En rose, vous avez le nombre d'étudiants, et bien évidemment, quand vous faites le ratio, la moyenne par étudiant en bleu, vous voyez que ça se casse la gueule. En gros, on dépense de moins en moins pour chaque étudiant. Et vous remarquez que la cassure, elle intervient en 2008-2009. Comme par hasard, c'est la mise en place des RCE. C'est là que ça intervient. C'est là où la masse salariale devient une variable d'ajustement. C'est là où le budget global permet de faire des transferts de masse financière, là où il faut faire quelque chose. En gros, on parlait du gel des postes, à la fois Vincent et Jean-Emmanuel en ont parlé. Gel des postes, c'est pas compliqué. Le ministère dit « on vous donne la possibilité de créer des postes ». Ils disent « le plafond d'emploi, on l'augmente ». C'est les fameux postes créés. Vous avez entendu parler des postes créés. Ça fait partie du bilan des politiques que vous connaissez actuellement. Il y a des postes créés. Mais en même temps, on serre la vis à tous les autres budgets de fonctionnement. Résultat, ce qui se passe, c'est comme on n'a pas les moyens de payer le chauffage, par exemple, on transforme, ce que Jean-Emmanuel disait, on transforme des postes en chauffage, en craie, en ce que vous voudrez dire. D'accord ? Voilà, c'est ça les RCE. Donc du coup, ça veut dire que les étudiants sont de moins en moins considérés dans la bagarre. Et là, c'est rien, parce qu'il y a le bout de la courbe. Il n'y est pas encore, parce que vous avez remarqué qu'on est juste en 2016. Mais ce qui est prévu par les chiffres ministériels, c'est entre 2015 et 2025, ça sera plus 400 000 étudiants. Plus 400 000, on va passer de 2 millions et des bananes à 2 500 000. Donc en 10 ans, là, je vous fiche mon billet que la courbe bleue, elle va encore dégringoler un sacré coup. Il suffit de regarder certains programmes, par exemple Fillon, moins 500 000 fonctionnaires. On voit bien que son intérêt dans l'enseignement supérieur, par exemple, parce que ça fait encore partie de la fonction publique, il ne va pas être là-dedans. Donc, les 400 000 étudiants qui vont arriver, comment on va les accueillir? On ne va pas les accueillir, ou très très mal. D'accord. Donc ça, c'est pour la suite. Ce n'est pas encore dans les courbes, mais vous pouvez imaginer la descente. Aux enfers, si vous voulez. Alors, UB, UFC, donc je vais aller très vite parce qu'on a effectivement deux établissements à peu près comparables, pluridisciplinaires, de province, machin, qui rencontrent les mêmes difficultés budgétaires. Elles sont cachées de la même façon par nos présidents. Les finances saines, les budgets sains, on l'a entendu, vous l'avez entendu. C'est la même cause. Il y a une austérité qui est infligée par le gouvernement qui est drastique. Et du coup, on se retrouve avec les mêmes logiques comptables que Vincent a indiquées. Voilà. La comptabilité sert de boussole pour toutes les politiques à l'université. On retrouve des similitudes sur les formations qui sont menacées, supprimées, amputées. C'est souvent, ça va être le maître mot, ce sont les formations à faibles effectifs. Voilà. Tranquille. Et d'ailleurs, il y a eu une mobilisation très forte là-dessus, avec nos collègues, notamment de SHS, de SLHS, en particulier avec on a eu l'élément emblématique qui ont été lettres classiques, donc on a dit que ça serait fermé, qu'il ne sera pas fermé, qu'on n'ouvrira pas. C'est pas pareil que fermé, on n'ouvre pas. Bref, on a une situation qui est tout à fait dramatique pour ces formations. J'y reviendrai après quand on parlera un tout petit peu de la commu. Parce que c'est intéressant de parler de la commu, justement, parce que c'est le deuxième étage de la fusée LRU. C'est l'étage Fioraso de la fusée LRU Pécresse. Donc on va y revenir juste après. Prélude à une mutualisation forcée, tout ça, ben oui, on en parle. On a rencontré au titre de la FSU, on a rencontré l'intersyndicale, la rectrice il y a 10 jours à peu près. Dans sa tête, c'est clair qu'il faut mutualiser tout ce qui est à petits effectifs. Sa question permanente, c'est vous ne pensez pas que l'on pourrait regrouper, ça serait mieux pour les étudiants, c'est mieux pour tout le monde. On lui a répondu que c'était surtout mieux pour ses finances, ouais, mais c'est tout. Hein, voilà. Donc, un vrai problème qui va être là-dessus. Alors, quelques choses brèves. La rentrée universitaire prochaine. J'allais dire, on prend les mêmes et on recommence. On retrouve exactement la situation qui a fait qu'on s'est mobilisé à la rentrée, suite aux annonces qui étaient des annonces de suppression d'un nombre d'heures qui était aux alentours de 35 000 à 40 000. Quelque part, la mobilisation paye. C'est un truc qu'on le sait. Hein. Quand on courbe les chines et qu'on reste dans notre bureau, on perd à tous les coups. Quand on a une action collective, personnelle et étudiant, ça peut porter des choses. Alors, on a évité le pire, simplement. Hein. Faut pas crier victoire. On a évité le pire, c'est-à-dire que le budget qui était initialement programmé a été revu, ce qui fait qu'on a un budget qui est voté en déficit de 2,8 millions. C'est quand même pas banal. Et sur les formations, il y a eu un transfert global de plus de 740 000 euros. Donc on est dans une situation qui n'est pas bonne. Tous les personnels et les étudiants s'en rendent compte qui n'est pas bonne. Vous imaginez ce que ça aurait été avec 740 000 euros qui n'auraient pas été consacrés aux formations. Donc du coup, quand on bouge son cul, il se passe des choses. Voilà, moralité. Et là, on revient à la même chose. On revient à la case départ pour, non pas l'année prochaine, mais pour tout le plan quinquennal, qui va d'ailleurs durer 6 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir une accréditation, alors il faut bien que tout le monde se rende compte que accréditation, c'est-à-dire que les formations sont validées, ça ne veut pas dire qu'on les ouvre. On les ouvre si elles sont financièrement soutenables. Financièrement soutenables. Donc le ministère dit, ah ouais, en latin, ils sont bons, ils peuvent ouvrir. Et puis, on dit, ben non, vous n'avez pas le pognon. C'est pareil pour toutes les filières. Vous pouvez ouvrir parce que les enseignants sont en capacité de le faire. Il y a un laboratoire qui est bon derrière, etc. Vous êtes capable de le faire, on va dire, intellectuellement, pédagogiquement, ça tient la route. Financièrement, ben vous ouvrez ce que vous pouvez. Voilà. Et donc, là, pour le prochain contrat quinquennal, et bien, ce qui est prévu, c'est ce qui est derrière moi. C'est encore des milliers d'heures, c'est les mêmes milliers d'heures qu'on avait à la rentrée. D'accord ? Donc, en gros, entre 7 et 15% de baisse suivant les filières, etc. Avec l'idée de base qui est, ben, on tape là où on ramasse d'abord le plus de pognon. Où est-ce qu'on ramasse le plus de pognon ? Ben, là où il y a le plus d'étudiants, c'est-à-dire en L, tous les cycles licence. Puis après, ben, on tape où on peut. Alors, vous allez me dire, ouais, les masters, ils pourraient taper un peu plus. Mais quand on tape sur un master, comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants, le moindre retrait, c'est la filière complète qui dégage. D'accord ? Donc, on est dans une situation dramatique où licence, master, même combat. Hein ? C'est surtout pas opposer les masters aux licences. Ça, c'est le genre de truc. Et surtout pas opposer SHS, sciences et techniques, etc. Voilà. Tout le monde s'en prend là. Vous noterez que là-dedans, il y a aussi une contradiction majeure avec le discours de notre université, de notre présidence. On va s'ouvrir à l'international. On va être connecté, on va faire du numérique, etc. Qu'est-ce qui trinque en premier ? Les filières langues, notamment anglais, etc. Donc pour l'international, vous repasserez. Et le numérique. Par exemple, tout ce qui est certificat informatique, le C2I, est supprimé, amputé dans tout un tas de filières. Donc, grosso modo, de l'esbrouf. De l'esbrouf parce qu'on fait de la com. Hein. La présidence, les universités font de la com. Alors de la com, j'y arrive. J'arrive à la com. Ah oui, bah non, ça je l'avais. J'ai déjà dit ça. Donc c'est bon, hein. Je vais toujours beaucoup plus vite que les pages que je tourne. Et donc, de la com, on y vient avec UBFC. Alors, on ne dit pas connu, on dit UBFC. Comme vous dites, Cochonou ou des choses comme ça. Attention à la marque. C'est important, la marque. Et quand on regarde les finances, là-dedans, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de sous. Ce qui me fait penser que du fric, il y en a. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, la réponse c'est « Ah, ça dépend où ». Du fric, il y en a. Là, il y en a, mais quand on regarde le total, 5 millions et des bananes, vous remarquerez que ce n'est pas l'argent de la commune, ça, 5 millions et des bananes. Là-dedans, vous avez une ligne, je me lève, vous avez une ligne qui est totale illicite, 2 millions, donc à peu près, bon, la moitié, mais déjà. Puis vous avez une autre ligne qui est 2 400 000 qui correspond au transfert des contrats d'État pour les doctorants, parce que le niveau doctoral passe à la commune. Ça, c'est quoi? Ben, c'est de l'argent que la commune ne voit pas. En gros, c'est la masse salariale pour les doctorants, on va dire ça pour faire vite. Donc, c'est 2 480 000 qui rentrent dans la poche de la commune et puis qui vont, fort heureusement, dans la poche des doctorants qui sont financés. Voilà. Et les deux autres millions, là, c'est ICIT. Vous savez, ce fameux plan d'investissement d'avenir dont vous avez peut-être entendu parler, où il y a de l'argent sur des objets d'excellence. Alors ça s'appelle IDEX quand on est vraiment très excellent, c'est-à-dire quand on a une vocation à être reconnu mondialement. Donc vous prenez la Sorbonne, vous prenez quelques grandes universités comme ça, donc qui pourront jouer dans la cour de Harvard et puis éventuellement arriver au classement de Shanghai. Et puis vous avez ICIT, le T, toujours juste le T, territoire. Ça veut dire des implantations à vocation plus nationale, hein, parce qu'on n'est quand même pas si bon que ça, et qui ont vocation aussi à s'accrocher à l'ensemble des besoins territoriaux locaux, on va dire. Hein. Ici, il y a quand même 2 millions dedans. Et ces 2 millions, c'est pour la première année, hein, c'est le contrat qu'on appelle de préfinancement. Au total, il y a 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui vont servir à arroser un certain nombre de champs thématiques d'excellence. D'excellence. En gros, pour l'université de Bourgogne, et puis pour l'université de Franche-Comté, parce qu'on est dans le même bateau, et puis pour les écoles qui y sont, etc., c'est 40% des enseignants-chercheurs et des laboratoires qui sont concernés. 40% de bons, 60% de cons. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et les autres, les 60%, eh ben, ils vont payer pour les 40%. Pourquoi ? Ben parce que lorsqu'il y a un truc du type ICIT ou IDEX ou un machin comme ça, ça devient prioritaire. Ça devient prioritaire parce que sinon, on perd cet argent. On ne doit pas le rembourser, mais stop. Le ministère dit stop. Si on n'avance pas, si on ne suit pas les jalons qui sont fournis. Et donc, les jalons, on va y revenir, ça va être des formations d'excellence. Et les formations d'excellence, ben, elles vont être prioritaires par rapport aux formations sous-alimentées, qui seront les vôtres, il faudra bien payer pour celles-là. D'accord ? Je vais y revenir. Au passage, parce que j'ai parlé de marque, il y a quand même quelque chose qui, moi, me fait hurler à chaque fois. Vous regardez, il y a quand même 318 000 euros, 300 000 euros, quand on pleure pour 3 euros de machin de TD, etc., pour l'image UBFC. Grâce à la loi LRU, toutes les universités sont en concurrence. Et donc, quand il y a de la concurrence, il faut faire de la pub. Et quand on fait de la pub, eh ben, il faut mettre un budget pub. Le budget pub, c'est l'image UBFC. Il va falloir faire de la signalétique, des beaux panneaux qui vont dire que ici, c'est l'UBFC. Des sites web, etc., de la campagne de com, des trucs sur papier glacé, etc. 300 000 euros pour faire de la pub. OK ? Les 400 000 euros qui sont à côté, on passe dessus, on dit que ça pourrait être de l'équipement commun à l'ensemble de l'UBFC, et donc on dit que ça pourrait être utile. Mais 300 000 euros juste pour se faire de la pub, ça fout les glandes quand on ferme des formations. La région soutient à fond ce truc-là. Il cite tes territoires. La région est à fond là-dedans. Donc, pour la Franche-Comté comme pour la Bourgogne, vu qu'on est dans la même région, c'est banco. On y va. On soutient. Il faut mettre symboliquement de l'argent. Donc là, la région a dit, tiens, on va foutre 500 000 euros. En gros, ça s'est passé comme ça. On a 500 000 euros, il faut les craquer avant 2016 parce qu'on n'a encore rien fait pour UBFC. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Eh bien, on va mettre aux alentours de 250 000 euros pour la pub, marque et identité, stratégie digitale, donc faire du web, des sites web qui soient cohérents, avoir la même police de caractère partout, hein, les mêmes chartes graphiques, etc. La valorisation éditoriale, qu'on ait une politique pour faire des films, hein, comme vous avez vu, hein, qui présentent les présidents qui hop, roulent des mécaniques pour dire que tout va bien dans la... 200 000 euros. Voilà. Et puis, retenez bien, des équipements numériques. Alors, quand on est au CA, on se dit, tiens, des équipements numériques, mais pourquoi donc on va faire des équipements numériques dans UBFC? Surtout pour un montant de encore 250 000 euros, à peu près. Et quand on lit en détail, et quand on pose des questions, on se rend compte qu'il y a une salle de réunion. On dit, tiens, ça va être des trucs pour mettre en œuvre des collaborations entre les différentes universités. Rien à dire, hein. On fait de la visio plutôt que de faire de l'autoroute. C'est pas forcément plus mal. Et on voit un amphithéâtre de 90 personnes. Ah bah merde alors. C'est rare qu'on fasse des réunions à 90 en visioconférence. Et quand on pose la question, bah oui, c'est pour faire des cours. Et on se rend compte que les équipements, je ne les ai pas mis, mais correspondants, interviennent dans toutes les écoles, dans toutes les deux universités et les écoles. En gros, on est en train de prévoir les cours par visioconférence pour les étudiants, pour des filières qui sont les filières mutualisées dont on parlait, petits effectifs, moyens effectifs, voire plus grands effectifs, parce que 90, qui seront refilés à UBFC, donc avec tous les problèmes que Jean-Emmanuel posait, c'est-à-dire les personnels, ils seront affectés où? Les étudiants, ils sont physiquement où? Voilà. Dernière chose, et j'aurais quasiment terminé, je suis désolé d'un peu long peut-être, mais il y a un truc pour dire aussi, dans concurrence, il y a concurrence à tous les étages. On entre en concurrence face à des grandes universités, Harvard par exemple, dans la concurrence mondiale, mais aussi entre nous. Il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau-là, mais il y en a qui vont vite dedans. Par exemple, ceux qui sont dans le périmètre d'excellence de ICIT, hein, les 3 ou 4 thèmes qui sont les thèmes prioritaires, eh ben, ils vont mettre des masters d'excellence. Des masters en anglais. Tiens, du coup, on trouve de l'argent là pour faire de l'anglais. Hein. Et il y aura ainsi 225 000 euros. Alors, il y a une grande partie qui vient de ICIT, hein, donc ce n'est pas du surcoût pour l'université. Mais, ces masters, ils vont être financés par des droits d'inscription. C'est François Jarry, je cite, qui avait dit, je crois, ce sont des masters d'excellence à l'international qui permettent de faire venir les étudiants, les enfants de la bourgeoisie chinoise. En gros, c'est effectivement ça, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On va essayer d'avoir des droits d'inscription très élevés, alors que les droits d'inscription pour nos étudiants, etc., ne leur permettent pas, parce qu'ils ne payent pas assez, d'avoir ces masters d'excellence. Si on prend le dossier qui est présenté sur le master de physique en sciences et techniques actuellement, c'est 75 000 euros pour 12 étudiants. Dites la vache, on aimerait bien avoir ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est juste après. Là-dedans, ce qu'il y a, d'abord c'est en anglais forcément, il y a des teaching hours quand même, hein. Donc 300 heures, bon, en gros, ça serait ce qui serait pris par ICIT, donc c'est financé. Mais le reste, le reste, c'est pour les composantes. Donc les composantes qui n'ont déjà pas de pognon, il faudra qu'elles mettent du fric dans ces masters-là. Et puis, il y a quand même des balades entre Dijon et Besançon. On invite des professeurs, etc., etc. 75 000 euros pour une douzaine d'étudiants. Tout le monde n'est pas logé vraiment à la même enseigne. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on ait en tête. C'est que du fric, il y en a, mais il est mis au service d'une petite minorité. Ce n'est pas les étudiants que j'incrimine là-dedans, hein. d'une petite minorité d'étudiants qui sont prévus, alors là, ils ne s'en cachent pas, les collègues qui font ça, pour être dans leur master recherche pour remplir leur labo. Ce n'est pas des masters pro qui permettraient, par exemple, de s'insérer pour avoir du boulot. Non. Il faut que les labos tournent. Il faut qu'il y ait de la recherche qui travaille. Il faut qu'on puisse faire des publications, merde, quand même, si on veut rentrer dans le classement de Shanghai. Il y a une logique qui est vraiment implacable là-dedans et qui est une logique qui broie, l'égalité d'accès aux formations pour les étudiants. Il y en a qui sont quand même vachement moins égaux que les autres. Alors, juste pour terminer, je voulais juste te dire, ce qui se profile là-dedans, je pense qu'on est au cœur du problème avec le changement de paradigme qui s'est opéré dans les 10 dernières années. C'est un, il y a des filières qui vont être vendables à l'extérieur. Alors, quand on parle de marchandisation de l'enseignement supérieur, on n'a jamais été aussi près. Il y a des filières qui vont être vendables. Et puis, comme il y a trop d'étudiants, en particulier trop d'étudiants pouilleux, qui ne nous intéressent pas, on met des capacités d'accueil. On en met de plus en plus. D'ailleurs, les UFR ne les demandent pas et la présidence les impose. D'accord ? Bon, capacité d'accueil, la présidence nous dit « Oui, mais je les mets suffisamment haut pour pas que ça gêne les étudiants. » Des clous. En sciences et techniques, par exemple, cette année, le nombre d'étudiants qui sont en amphi, en L1, c'est plus que ce qui est prévu en capacité d'accueil par la présidence pour l'année prochaine. Donc, ça veut bien dire qu'on veut empêcher des étudiants de venir dans certaines de nos filières. Alors, je prends sciences et techniques parce que je connais un petit peu bien, mais aussi parce que pendant toute une période, on a dit « on manque de scientifiques ». Bah merde, on a des bacheliers qui veulent venir faire des sciences et on leur dit « non, allez jouer ailleurs okay ». Capacité d'accueil, si ça ne vous fait pas penser immédiatement à sélection, c'est qu'il faut que je vous paye des lunettes ou un sonotone. Sélection, parce que, quelque part, le président de notre université en a parlé, je ne sais pas si Bailly en a parlé, mais quand même, ça ne serait pas forcément une si mauvaise idée que ça que d'augmenter les droits d'inscription. Plutôt que de faire passer un examen aux étudiants, parce qu'ils s'y refusent, heureusement, nous aussi, rassurez-vous, mais bon, on peut sélectionner par le fric, il suffit d'augmenter les droits d'inscription, et puis il y a quand même pas un paquet d'étudiants qui peuvent aller à NPE plutôt que de venir suivre des études. On en est là. Diversification des sources de financement. Je crois que c'est toi qui en as parlé, Vincent. Pensez bien que ça, c'est un des leitmotifs depuis Pécresse. Moi, je n'ai jamais entendu autant parler. Comme on serre la vis au budget d'État, on dit débrouillez-vous pour trouver du fric ailleurs. On passe en moyenne nationale, j'ai le chiffre en tête en 2015, je ne sais pas cette année, mais on était déjà à 14%. D'autofinancement, enfin de financement autre que les financements d'État, 14% pour l'ensemble des universités. C'est un truc qui a augmenté très vite entre 2009 et 2015. On est passé, on va dire, pas de zéro, mais de très très peu à 14%. L'idée, c'est aller chercher du fric. Vendez-vous, la marchandisation. Allez chercher les entreprises qui acceptent de vous financer, comme si les entreprises acceptaient de financer sans contrepartie. Le CICE, si on fait du fric aux entreprises sans contrepartie, mais l'inverse, c'est jamais vrai. Quand une entreprise vient à l'université pour financer quelque chose, il y a du retour. Voilà. Donc, j'ai terminé avec ça. Je pense qu'on a du boulot, on a du travail, et je pense que collectivement, on peut y arriver. Avec les copains de Besançon, je pense qu'on peut mener la vie dure quand même au rectorat, à la région, etc. Merci.
J'interviens en tant que représentante du collectif Université Debout qui s'est créé à la rentrée et je remercie beaucoup l'ensemble du département d'histoire pour l'organisation de cette journée qui fait vraiment saillir des convergences qui nous montrent qu'il n'y a pas de fatalité du tout, il y a des stratégies bien étudiées, sans ça il n'y aurait pas ces convergences y compris donc des similarités dans ces injonctions contradictoires dont on pourra reparler tout à l'heure. Des similarités aussi, des convergences hein, dans cette idée de communication. La communication, ce n'est pas l'information, je vais en reparler tout à l'heure. Alors nous, à Dijon, on a la chance d'avoir un président qui, comme vous le savez, est très soucieux du dialogue, qui nous fait énormément confiance, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on échange, qui respecte l'écoute des personnels et qui est absolument sûr de la confiance hein, qu'on place en lui et en son équipe. Sauf que les coupes inacceptables hein, qui nous affectent aujourd'hui, elles ont été décidées en juin. Alors juin, ce n'est pas tout à fait la bonne époque pour engager un dialogue et donc mettre en place une transparence. Alors ces coupes donc annoncées en juin qui ont justifié la mobilisation et la création du collectif, puisque effectivement, comme cela a été rappelé, hein, en juin, on a appris donc un certain nombre de suppressions de postes chez les personnels VIAT, un certain nombre de coupes très importantes dans les heures d'enseignement. Et donc, c'est en juin qu'on nous a proposé la politique du pire. Parce que c'est ça. Hein. On nous propose la politique du pire et ça serait intéressant de réfléchir aux raisons de cette démarche. Hein. C'est-à-dire annoncer le pire pour finalement nous donner l'illusion, une fois qu'on s'est un petit peu énervé, excité, organisé, qu'on a la chance parce qu'on ne supprime que 12% des heures d'enseignement. Et il faut effectivement hein, essayer de réfléchir à la manière de contrer cette stratégie. Alors, cette mobilisation des syndicats, des étudiants et du collectif, les différentes AG qu'on a tenues, la mise en place d'une page Facebook, mais aussi les interventions qu'on a mises en place pour interrompre le CA et établir effectivement un dialogue qu'on a jamais eu, ont permis que les coupes soient moindres que ce qu'on aurait pu avoir, si ce n'est que de toute façon, on arrive à la même situation, puisqu'on nous demande à nouveau de faire les coupes équivalentes entre 12 et 15% pour le plan de formation 2017-2021. Donc en 2016-2017, hein, on estime que c'est 40 000 heures de cours qui vont être supprimées. Ça a affecté énormément de composantes, soit dans le volume d'heures dispensées, soit dans le mode d'enseignement hein, des TD qui sont transformés en CM, soit dans la suppression donc, des cours de langue ou d'informatique. D'ailleurs, ça va être le cas en L1 de psychologie. Les étudiants n'auront pas d'anglais. Je ne sais pas comment les étudiants vont avoir leur diplôme sans valider leur ETC. On verra. L'augmentation des effectifs, la suppression des encadrements par les professeurs référents ou alors dans les sciences de santé, la suppression du semestre rebond par exemple. Donc ce qui disparaît, c'est aussi tout un tas de dispositifs hein, qui accompagnaient les étudiants de L1 vers la réussite. Donc il s'agit vraiment d'une atteinte sans précédent au droit à la formation et je crois que c'est ça vraiment qui nous a réunis. Alors, on discutait l'autre fois, puisque ce que je vous dis aujourd'hui est le résultat aussi d'échanges hein, avec des collègues qui sont présents aussi et qui ne sont pas, de la difficulté qu'on a à mobiliser et à informer. Je dis informer et pas communiquer. Hein. Et on évoquait l'autre jour hein, quelque chose qui nous touche, je crois, nous, chercheurs en sciences humaines, qui est le génie du lieu, c'est-à-dire ce qui fait que finalement, dans un lieu donné, avec l'histoire de ce lieu donné, eh bien, il y a une mobilisation, une volonté de lutter qui voit le jour. Et je trouve ça intéressant d'opposer cette idée d'identité d'un lieu, peut-être de génie d'un lieu, à cette marque vide d'histoire, vide de connotation, vide d'humanité dont tu parlais tout à l'heure, Marc. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à mobiliser aujourd'hui, plus particulièrement à l'Université de Dijon, peut-être qu'à Besançon? Voilà une question qu'on peut se poser, parce qu'au-delà des contraintes d'emploi du temps qui sont les nôtres, il y a un individualisme grandissant et le collectif essaye d'imposer un être ensemble dans la vie de l'université, mais aussi un être ensemble dans la lutte. Parce que tu viens de le redire, on n'y arrivera pas si on n'est pas ensemble et si on n'est pas nombreux. Le collectif a été effectivement créé un petit peu dans l'urgence de la rentrée. Il fallait avant tout pouvoir informer, pouvoir aussi signer des revendications, pouvoir réagir, pouvoir peut-être donner une forme à notre colère, qui est une colère très très grande qu'on a gardée aujourd'hui. Le collectif, à mon sens, c'est donc une forme qui prend, qui naît dans une certaine spontanéité, mais qui est destinée à évoluer. On avait mentionné de manière peut-être un peu idéale l'idée d'état généraux de l'université, mais qui me semble absolument indispensable et qui peut-être effectivement arrivera à advenir un jour. Bien sûr, le collectif Université Debout s'inspire de Nuit Debout, c'est une assemblée de personnel de l'université. Idéalement, toute catégorie, et vraiment, je voudrais réinsister, et je crois que tout le monde sera d'accord, sur les convergences qu'il y a, la précarisation aussi du personnel enseignant. On a recours de plus en plus à des vacataires, de plus en plus aussi à des contrats effectivement qui, alors non seulement sont précaires, mais qui en plus s'arrêtent par exemple au 30 mai ou au 30 juin, parce qu'il faudrait quand même pas payer les gens pendant les vacances. Donc ça, on le ressent très très fortement également. On peut s'interroger aussi sur les raisons qui font que le collectif finalement n'a pas réussi ça, à réunir effectivement des personnels de toutes catégories, et s'interroger sur la fragmentation de ce qu'on aimerait être la communauté universitaire. Pourquoi est-ce que, effectivement, en France, cette idée de communauté universitaire qui anime les universités dans les pays anglo-saxons n'advient pas, n'existe pas? Pourquoi est-ce qu'on a cette fragmentation de la communauté universitaire? Parce qu'il me semble effectivement que chaque personnel est garant de la qualité de la formation dispensée à l'université. Alors, le collectif souhaitait aussi créer un espace d'échange, et je crois que tous on croit à la vertu d'un dialogue qui n'aboutit pas forcément au consensus, mais c'est ça qui en fait l'intérêt. On sait aussi qu'il est nécessaire d'aborder des questions délicates comme celle de la sélection, celle de la mutualisation des cours, celle des droits d'inscription, et il faut ouvrir ces chantiers dans un dialogue respectueux. On voudrait aussi peut-être promouvoir l'idée d'une université qui soit juste, qui ne soit pas excluante, ou pour aller plus loin, comme le dirait la sociologue Saskia Sassen, une université qui serait expulsante, puisque selon elle, on est passé de l'exclusion à l'expulsion, et on voit bien comment des politiques comme l'ISIT, par exemple, expulsent un certain nombre d'étudiants. Des formations qui soient rigoureuses et qui soient responsables, de qualité, mais aussi une université qui soit non pas innovante ou une université d'excellence, mais une université qui soit épanouissante et créative. Donc, par rapport aux politiques d'austérité, qui sont, pour reprendre des termes qu'on entend beaucoup, décomplexés, assumés, il nous a semblé vraiment important de rappeler que la mission première de l'université doit être effectivement d'accompagner les jeunes dans une formation exigeante et ambitieuse, et non pas de créer des formations de second ordre pour des étudiants qui seraient de second ordre, et d'accompagner des jeunes qui sont à un moment crucial de leur vie. Je crois que c'est ça qu'on a envie de faire passer comme message en tant qu'enseignant. On sait que la formation à l'université, c'est un moment important pour que les jeunes adultes accomplissent, non pas juste qu'ils aient un diplôme, mais qu'ils accomplissent un projet de vie. Et nous, on se sent responsables de ça. Et effectivement, on ne souhaite pas trahir la confiance des étudiants en leur proposant des parcours bricolés à force de mutualisation, de fermeture, etc. Donc, ce qu'on voudrait imposer, c'est un dialogue autour, non pas de la soutenabilité financière dont on nous rebat les oreilles, mais de la soutenabilité pédagogique et scientifique des formations, parce que je crois qu'on se sent très profondément garant de cette qualité de formation, du droit qu'a chaque étudiant de L1 à faire aboutir son projet de vie, son projet professionnel, et effectivement, on est responsable. Et aujourd'hui, on a envie d'insister effectivement sur cette sanctuarisation des maquettes, et le collectif, effectivement, à l'AG de demain, va appeler l'ensemble des collègues à refuser la révision des maquettes, refuser la diminution des heures. Et je crois que c'est vraiment une question de désobéissance civile, presque. C'est notre responsabilité de ne pas réviser ces maquettes. Parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de fatalité effectivement, mais des choix qui sont faits hein, dans les universités. Donc le choix de la présidence qui est allé vers le pari risqué de la dévolution du patrimoine et ce qui a été dit à propos du transfert hein, du surplus d'argent vers la réfection des bâtiments, etc., c'est que bien sûr nos présidences sont attirées par les sirènes de la dévolution du patrimoine, laquelle a pour but tout simplement hein, de garantir voilà, une plus grande autonomie financière et donc évidemment le désengagement de l'État. Donc ça c'est un premier choix. Le choix également de la compétitivité à tous les niveaux. Là encore, il n'y a pas une loi naturelle de la compétitivité. Hein. C'est vraiment des choix, des dogmes qui imprègnent les politiques gestionnaires des universités. Le choix également d'un rayonnement international, on en a parlé, hein, plutôt que le maintien d'une offre de proximité qui doit rester notre mission. Je prendrai juste un exemple qui me semble symptomatique de deux étudiantes inscrites en master de musicologie cette année. Le master de musicologie donc, a été supprimé après la rentrée, après que ces étudiants aient payé leurs frais d'inscription. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les familles n'étant pas en mesure de payer la formation à Paris ou à Lyon ou je ne sais quoi, eh bien, on a transféré ces étudiantes dans le master d'histoire de l'art. Voilà. Pas de problème, c'est beau, hein, la polyvalence. Voilà. Non, il faut refuser ça, c'est tout simplement inacceptable. Donc, il y a un certain nombre de spécificités à la situation de l'Université de Bourgogne et puis d'autres choses qui relèvent, bien sûr, hein, de politique nationale, voire internationale. On a effectivement réagi aussi très vivement à ce que j'appellerais finalement la propagande de la présidence. Pourquoi propagande? Parce que, comme à Besançon, et là encore, c'est intéressant qu'il y ait des convergences, l'équipe présidentielle a passé son temps à nous dire que la situation était saine, que tout allait bien, on se réjouit d'être dans les palmarès internationaux. Par exemple, hein, donc M. Bonin dit lors d'une interview à New Tank Education, l'Université de Bourgogne figure en 2015 pour la première fois dans le classement prestigieux du journal britannique Times Higher Education, qui valorise la qualité de la recherche et de la formation. Pour son entrée parmi les 800 établissements sélectionnés, l'Université de Bourgogne figure dans le top 600. Selon les critères retenus, elle se positionne ainsi parmi les 16 meilleures universités françaises, etc. Elle est à la 8e place nationale des universités pluridisciplinaires. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à nos étudiants? Ça, je me le demande. Mais on dépense beaucoup d'énergie, y compris en communication, hein, pour rentrer là-dedans. Donc, l'équipe présidentielle hein, n'a de cesse dans sa stratégie de vanter les mérites hein, de ce rayonnement scientifique, de sa capacité à attirer des étudiants, des chercheurs talentueux du monde entier, etc. Évidemment, il s'agit hein, de délaisser un certain nombre de formations pour valoriser celles qui rayonnent, celles qui sont excellentes. Donc on a déjà une société à deux vitesses, on a déjà un système éducatif à deux vitesses, et à l'intérieur de l'université, ce qu'on est en train de préparer, c'est évidemment une université à deux vitesses, on en a parlé tout à l'heure. Autre choix qui est fait, celui de l'innovation pédagogique, donc il y aurait beaucoup à dire, donc les stratégies dans le PIA3 qui inclut comme par hasard hein, le tourisme comme secteur d'avenir et qui justifie effectivement un renforcement de la politique d'innovation, d'excellence, etc. La création des MOOC, alors pour l'université de Bourgogne, hein, c'est révélateur puisqu'on a un MOOC culture et écriture numérique et un MOOC, devinez, université de la vigne et du vin pour tous. Là encore, il y aurait beaucoup à dire sur ces choix. Un engagement vers des innovations pédagogiques et un centre d'innovation pédagogique et d'évaluation qui coûte relativement cher quand on ne peut même plus payer des heures de TD à nos étudiants, est-il vraiment le moment de se préoccuper d'innovation pédagogique? Alors, je prononçais l'idée de propagande, mais quand même, hein, quand l'équipe présidentielle passe son temps à nous dire que tout va bien, et on nous l'a encore dit lorsqu'on a interrompu le CA il n'y a pas très longtemps, hein, c'est-à-dire qu'on supprime 14 000 heures de cours, on annonce des nouvelles coupes, mais finalement, tout va bien. Hein, mais dans d'autres espaces, à d'autres médias, eh bien, M. Bonin explique « nous ne pourrons pas être excellents partout ». Je vais donc positionner l'UB sur certains domaines scientifiques. Les choses sont quand même clairement dites. Alors, il a été question également de la commu et de l'ISIT. Là encore, la présidence nous dit que l'ISIT est neutre budgétairement. Évidemment, non, elle n'est pas neutre budgétairement, d'autant que et la commu et le choix de l'ISIT renforcent l'instabilité budgétaire, le fait qu'on dépende finalement de fonds qui vont et qui viennent. Donc, ça va complètement à l'encontre de cette pérennité, de cette stabilité qu'on voudrait accorder aux formations. Donc, cette méthode de gouvernance qui est inadmissible, qui est basée sur le mensonge, sur la désinformation au profit de la communication, on voit finalement qu'elle est la même à Besançon et effectivement, il convient de s'interroger. Mépris également des personnels, mépris du dialogue, puisque en pleine crise en septembre et en octobre, nous étions invités cordialement à nous rendre à une fête de rentrée pour célébrer le talent de nos grands sportifs à l'université. Alors, parmi les questions budgétaires qu'il va falloir creuser, et c'est un travail qu'on pourra faire, j'espère, ensemble, celui du budget alloué aux réceptions. On a parlé de la communication, mais il y a d'autres zones d'ombre dans le budget. Ce sont des budgets communication, réception, qui sont en hausse depuis l'arrivée de M. Bonin à la présidence, et il faudra effectivement qu'il se justifie sur ces dépenses. On le voit en tout cas, l'équipe présidentielle n'est pas gênée par notre mobilisation, ça n'empêche pas de célébrer les filières innovantes, excellentes de l'université. Alors, beaucoup aujourd'hui s'interrogent effectivement sur la compétence de l'équipe présidentielle à gérer le budget. C'est sans doute dû effectivement à une complexité grandissante de certaines sources de financement. Si on se lance, et j'espère qu'on pourra le faire dans une analyse plus précise de ces comptes, cela nous amènera peut-être effectivement à constater une incompétence qui nous préoccupe tous et qui doit préoccuper avant tout les étudiants. Alors, malgré ces spécificités propre à l'université de Bourgogne, donc une gouvernance qui choisit l'excellence, la compétitivité, c'est-à-dire la sélectivité, l'inégalité, une communication qui relève plus de la propagande que de l'information. Il y a bien sûr des perspectives nationales et internationales qu'il faut rappeler, et je voudrais rappeler ce que dit Judith Butler à propos des logiques de destruction des humanités qui accompagnent la marchandisation des savoirs, alors que nos sociétés sont traversées par une vague d'anti-intellectualisme très problématique, on l'a vu dans le paysage politique également. Donc je la cite, elle écrit « Il me semble absolument urgent de réimposer et de réclamer que l'université soit inconditionnellement retranchée des logiques de marchandisation, même si elle a toujours été un lieu de pouvoir hiérarchisé, inégalitaire et fonctionnant au sein d'une économie politique asymétrique. Cette revendication va de pair avec une réflexion sur le rôle des humanités et des chercheurs dans l'élaboration d'un mouvement de pensée qui soit critique, mais qui puisse aussi être auto-réflectif et alternatif, au sens anglo-saxon du terme. Elle évoque à Londres ou à Rome des universitaires qui sont descendus dans la rue en utilisant des livres comme boucliers, et je trouve cette idée particulièrement forte et peut-être qu'on pourra y réfléchir lors de l'AG, par exemple, de demain, où on reparlera des possibilités d'action. Il faut, je crois, s'inspirer de cette image-là, de se battre pour nos livres, de se battre avec nos livres. Opposé au tableau de comptabilité des livres, sans refuser, bien sûr, de débattre des contraintes financières et juridiques auxquelles l'université doit faire face. Et je reviens à cette idée d'injonction paradoxale, parce que je crois qu'elle est importante. Je crois que ce qu'on veut nous faire faire, finalement, c'est ce que les décideurs n'ose pas nous imposer, c'est-à-dire nous amener petit à petit à constater que, eh bien, effectivement, ça ne peut plus fonctionner comme ça et que donc il faut bien mettre nos cours en ligne, il faut bien mutualiser les parcours, etc. Donc il ne s'agit pas d'une injonction paradoxale non délibérée ou voilà, qui tombe du ciel. Hein. Là encore, je crois que les stratégies sont importantes et qu'il faut les mettre à nous. Comme le dit Judith Butler, d'une certaine façon, nous menons un combat pour défendre nos valeurs dans un domaine où le marché est devenu le seul critère de valeur. Et ces valeurs, on y tient, et ces valeurs, il faut se battre pour qu'elles animent et qu'elles fassent vivre l'université et la communauté universitaire. Alors, à travers ces actions, le collectif voudrait effectivement plaider pour le maintien et l'effet des dispositifs d'accompagnement des étudiants de L1. Il me semble qu'on pourrait aussi revendiquer l'abrogation du principe complètement inique hein, de fongibilité asymétrique dont on reparlait tout à l'heure. Là aussi, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fatalité. Hein. Donc la fin d'un fléchage budgétaire strict qui pourrait nous permettre de préserver les formations, puisqu'il y a effectivement une dérive et que le budget des formations représente aujourd'hui 35%, alors qu'il y a 10 ans, il représentait donc 45%. Le collectif voudrait aussi interpeller la présidence sur ces logiques de mutualisation à tous les échelons, puisque effectivement, la mutualisation à l'échelle des composantes, hein, c'est un espace finalement de bricolage qu'on accepte souvent, il faut bien le dire, parce que c'est le seul moyen qu'on a de sauver un certain nombre de formations. Or, ces mutualisations, elles déprécient, bien sûr, hein, le contenu pédagogique des cours. Et il faut, je crois, vraiment ouvrir un grand chantier de réflexion sur ces mutualisations et les refuser autant que possible. Mutualisation à l'échelle de la commune, on l'a vu. Encore une fois, hein, ce sont des projets complètement abstraits. On ne se pose pas la question de savoir comment on les met en œuvre, ni quel est le bénéfice pédagogique. Hein. On nous parle à nouveau uniquement de soutenabilité financière, jamais de soutenabilité pédagogique. Et effectivement, il faut absolument répéter, parce qu'on l'a déjà dit à M. Bonin, et le faire ensemble, en chœur, qu'une université qui est viable, ce n'est pas une université qui n'est pas mise sous tutelle, c'est une université qui propose des formations qui permettent aux étudiants d'accomplir leur projet de vie. Voilà. Merci.